Donc, Luc, Barack Obama qui envoie un tweet pour dire « Votez, chers Canadiens, pour Justin Trudeau ». T'as-tu envie d'y dire de se mêler de ses affaires?
Non, faut pas tout. Ça peut surprendre un chef d'État, d'habitude, le fait pas ça, parce qu'un chef d'État en fonction, il se risque de se trouver avec l'opposant de celui qui a voulu appuyer, ouais. Puis imagines-tu les relations entre les deux pays. Obama a une telle stature qu'on a l'impression que c'est un chef d'État en fonction encore, il a une telle influence, mais ce n'est pas un chef d'État en fonction. Il a le droit, comme citoyen américain, il a le droit de donner son appui. Puis en plus, tu sais, c'est quoi la cerise sur le sundae? Tu connais notre ami Trump, comment il se fâche facilement. Imagine-toi que lui, il dit, ah ben, le maudit, moi, je vais appuyer Scheer. Ça serait la fin pour Scheer. Tu sais, je veux dire, ça serait, il clouerait le cercueil de Scheer à tout jamais en faisant ça. Alors, j'ai hâte de voir comment Trump va réagir.
Je t'avoue, moi, quand j'ai vu ce tweet de Barack Obama, là, juste avant d'entrer en onde, j'ai comme eu un peu, même si j'admire ce président-là, là, qui est comme le vin, je te dirais, Luc. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'améliore à mesure que Donald Trump passe plus de temps dans la Maison-Blanche, à mon avis. Là. Mais j'ai quand même eu de dire, j'ai eu envie de lui dire, mêle toutes tes affaires.
C'est peut-être la raison pour laquelle ça n'aura pas tant d'influence que ça sur le vote. T'sais, les gens qui sont contre vont penser exactement ce que tu penses. Ils vont dire.
Je compte le principe de leader ou dans, parce que c'est encore un leader, là, disons, appelons ça comme ça, là.
Oui, mais c'est pas
étranger qui dit à des citoyens d'un pays où ils n'habitent pas, vous devriez peut-être voter pour tel gars ou telle femme. Il y a un problème avec ça.
C'est pas un chef d'État. Je te répète, c'est pas un chef d'État. Puis tu sais, je pense qu'il peut y avoir des préoccupations du style est-ce que les démocraties occidentales ont une possibilité de virer vers la droite. Est-ce que s'il y avait une alliance entre Scheer et Trump, ça pourrait être dangereux pour le climat? Et surtout, est-ce que Scheer nous a tout dit sur le pétrole? Tu sais que Scheer nous a dit très peu de choses sur le pétrole. Il veut simplement passer dans son parti un corridor énergétique qui va permettre de mettre des pipelines. Mais quand tu regardes la liste des actions qui ont été menées par Trump pour appuyer le pétrole, comme par exemple la fin des inspections, les rabattements fiscaux, les choses comme ça, est-ce que Scheer a les mêmes cartes dans son jeu? Et si c'est le cas, Obama doit s'inquiéter terriblement. Rappelle-toi qu'Obama a été contre Keystone XL, le pipeline pourtant appuyé par Trudeau, qui devait faire passer des gaz bitumineux à travers le territoire américain. Il a toujours eu cette conscience environnementale-là, puis toujours une résistance à la production du pétrole avec les sables bitumineux.
Mais pour moi, M. Scheer, écoute, c'est assez clair, là, Luc. Il est pour le pétrole, il est pour le gaz, il est pour le développement des hydrocarbures. Il s'en est jamais caché. Et écoute, il est appuyé par tout ce qui est pro-pétrole au Canada.
Oui,
là.
Mais mettons, regarde, tu sais que là, il veut rouvrir la Constitution pour permettre le passage de son corridor énergétique. Parce que la Constitution actuelle ne permet pas de passer sur le territoire national d'une province. Et en particulier le Québec, là, ça créerait des flammèches épouvantables. Est-ce que ouvrant cette constitution-là, il va se mêler de dire les gaz de schiste qui ont été interdits et qui ont été
dans la vallée du Saint-Laurent,
dans la vallée de Saint-Laurent, on va les permettre dorénavant. Personne n'a pensé à cette hypothèse-là, mais tant qu'à réouvrir la constitution, peut-être que tu la rouvriras pas juste pour le passage du corridor.
Moi, Luc, écoute, désolé de te contredire là-dessus, là, mais au Canada anglais, là, ils ont été tellement traumatisé par les conséquences de la réouverture de la Constitution qu'ils ont essayé avec le lac Meech, et ça a mené à un référendum en 1995. Moi, je vois pas de scénario où ils vont s'essayer. Parce que quand une des parties prenantes décide de rouvrir la Constitution, tout le monde va avoir ses demandes.
Ben, c'est vrai, c'est un fait. Mais c'est pourtant la promesse de Scheer. C'est pas la première. Hey, deux choses qui m'ont frappé mais je suis d'accord avec toi, là. Je suis d'accord essentiellement avec toi. Imagine-toi si tu rouvres la Constitution. Première chose, les Premières Nations qui vont dire cette fois-là, on est assis à la table, tu sais, c'est clair. T'as bien raison. Mais deux choses qui ont percolé sur les médias sociaux. Obama n'a pas été fâché par le blackface de Trudeau. C'est d'une évidence.
Ben oui, mais. Qui écoute, à part, sincèrement, le Luc, là. À part les militants les plus progressistes, les gens qu'on appelle woke, W-O-K-E, là, ce qui veut dire éveillé, là. T'es éveillé à toutes les sensibilités, là. À part ces gens-là, là, les sondages l'ont démontré tout de suite après le blackface de Trudeau, même les gens des communautés ethniques n'étaient pas fâchés. L'homme de la rue, là, qui n'est pas là, étudiant à Concordia ou à l'UQAM, ça ne l'a pas dérangé.
Effectivement. Puis ni Obama non plus. On aurait pu penser qu'Obama faisait partie des woke, mais non. Vraiment, ça s'est passé sur lui comme l'eau sur le dos d'un canard. Autre chose sur Twitter, les gens ont évoqué l'intervention des puissances étrangères, mais avec la sauce américaine en disant « Oups, est-ce qu'on est dans une affaire ukrainienne ou une affaire russe? » Est-ce que ça, tu sais, donc...
Parce qu'Obama est intervenu?
Ben oui, mais parce que il y a tout un mouvement pour dire « Mêlez-vous de vos affaires, pas à peu près, là, tu sais. » Et là, mais c'est complètement différent. C'est fait sur le dessus de la table et pas en dessous de la table. C'est fait de façon ouverte, puis c'est une seule personne. Il n'y a pas de parallèle, mais les gens fâchés ont fait un parallèle.
Mais ils me font rire, les Américains. Tu sais, il y a beaucoup de questions d'intervention dans le processus électoral américain. Là, il y a eu la Russie. Là, on soupçonne que peut-être en Ukraine, il y aura des tentatives. Mais regarde, les Américains, là, dans leur histoire, même leur histoire récente, penses-tu qu'ils ne sont pas intervenus dans des élections?
Oh my God!
En Haïti, au Guatemala, au Chili... Dans les pays baltes autour de la Russie, tu penses-tu que les Américains ne sont pas intervenus d'un bord ou de l'autre d'une certaine façon?
La job de la CIA, c'était sa première mission. Tu sais que la CIA n'avait pas beaucoup de forces armées. Là. C'était beaucoup un groupe d'intelligence politique. Là. Donc, ils l'ont fait à jusqu'à plus soif.
Pour moi, le scandale de ce qui s'est passé dans l'ingérence russe, c'est comment les républicains ont accepté ça, comment les républicains ont banalisé ça. Si ça avait été fait à l'avantage d'un candidat démocrate, je veux dire, il y aurait déjà un impeachment. Une présidente démocrate aurait été tassée du pouvoir. Mais là, parce que ça touche leur gars, leur camp, s'en sacre un peu.
Puis c'est ça. Mais c'est ce refus de la loi de total, complet, partiel, constamment partiel de Trump. T'sais. Sa demande qui est faite au président de l'Ukraine à 8 reprises dans une conversation téléphonique. Pourriez-vous vous en mêler, s'il vous plaît? Écoute.
OK. Changement de sujet complet. Ça fait 2 ans, cet automne, que le mouvement MeToo a pris son envol. Et là, on est à l'heure des bilans.
Et oui. Et Le Devoir, la chroniqueuse bien connue...
Francine Pelletier.
Qui fait une excellente analyse qui révèle, en fait, qu'il y aurait 2 études américaines qui s'inquiètent du backlash de MeToo. Le ressac en français. Alors, il y aurait eu 2 enquêtes. Une première enquête qui a été menée par Leaning.org, qui est une dame qui s'appelle Sheryl Sandberg, puis qui est une directrice des opérations chez Facebook, affirme que 60% des administrateurs sont mal à l'aise à l'idée de travailler en tête-à-tête avec une femme dorénavant, de socialiser avec des femmes dans le cadre du travail ou encore de se proposer comme mentor à une femme plus jeune. Bon, on aurait pu penser que c'est une étude comme ça, qui n'est pas très pertinente, mais il y en a une seconde qui est venue l'appuyer, celle-là menée par l'Université de l'Arizona, qui confirme qu'en effet, beaucoup d'hommes ne savent plus sur quel pied danser. Un tiers des hommes interrogés craignent de se retrouver seuls dans une réunion de travail avec une collègue. 21% hésiteraient à engager une femme avec qui ils travailleraient en étroite collaboration. 19% hésiteraient à embaucher une jolie femme. Alors,
qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, je pense que ça, j'en pense rien, parce que nous autres, on est 2 gars. Il manque de femmes autour de la table pour penser à ce sujet-là.
Oui, mais t'es un gars, qu'est-ce que ça te dit sur les gars 2 ans plus tard?
Bien, je pense qu'il y a eu un traumatisme, il y a eu un choc. Parce que la base de MeToo, là, c'est on se donne le droit d'accuser sans jugement ou sans preuve ou sans processus légal. C'est ça, la légitimité même, c'est le processus légal ne mène pas à des accusations. C'est trop lourd pour la femme qui, elle, est pratiquement en bout de ligne la coupable. Puis quand c'est pas la coupable, c'est du moins la victime, la double victime, parce qu'elle est première fois victime du geste, puis deuxième fois, elle est victime dans sa carrière, dans son image, etc. On se rappelle de Madame Lewinsky aux États-Unis. On se rappelle des victimes de Gomeshi. Je sais pas si on peut dire victime, entre guillemets, de Gomeshi.
Oui, on peut.
À Toronto.
On peut. Il y a eu un procès, puis je le rappelle, dans le deuxième procès, Gomeshi, pour éviter le deuxième procès, il a dû admettre une certaine responsabilité.
Voilà, donc on peut dire ça, des victimes. Et finalement, c'est elles qui sont sorties perdantes. Alors, le mouvement disait, on se donne le droit d'accuser sur la base de rumeurs, ou du moins sur la base d'affirmations. Et donc, c'est exceptionnel, ça. C'est quand même... Alors, mais ça pouvait nécessairement être un mouvement fragile sur le long terme, parce que à long terme, tu peux pas... Ça peut mener à des dérapages. Tu sais, le mouvement Balance ton port en France. D'ailleurs, le vocable Balance ton port, pas mal plus fort que le mouvement MeToo. Et dénoncé donc par Catherine Deneuve et plusieurs de ses acolytes lorsqu'elles ont évoqué le droit d'être importuné.
Mais dénoncé assez maladroitement. Là.
Maladroitement. Ouais, maladroitement.
C'est sérieusement.
Mais ce qu'elle disait, c'est ça va beaucoup trop loin. Ouais. Il y a des listes qui circulent. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien. Il y a des dizaines de noms. Au total, le mouvement MeToo, il y a eu 1000 accusations aux États-Unis. 1000. Il y a eu des mois où il y en a eu jusqu'à 160, le mois où Weinstein a été accusé. Maintenant, on est à 12. 1000, c'est pas beaucoup pour la population américaine. Mmh, mmh. Au Canada, au Québec, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins.
On en reparlera si tu veux, mais tu sais, il y a beaucoup de gens célèbres qui ont été accusés sur la place publique, mais moi, j'ai toujours une pensée pour la dame qui travaille dans un concessionnaire, la dame qui travaille au contre-recevable, qui n'est pas connue, mais elle, là, ces institutions qui sont chargées de la protéger, puis les institutions Le Devoir le montraient en fin de semaine, là, les institutions n'ont à peu près pas suivi ce mouvement-là, ça n'a pas changé grand-chose. 17h23, merci Luc Ferrandez.
Merci à toi.